Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Bonjour, vous vous appelez comment?
Alors Bernard Astruc, bonjour.
Vous êtes ici pour la journée Tous en bottes qui se passe à La Baume, au pays de Bouèche. Vous êtes là pourquoi vous?
Alors d'abord je vais vous dire que je suis très heureux d'être là, parce que c'est un beau pays, c'est la moyenne montagne, et je trouve que les espaces sont très verdoyants, ce qui nous change du Var. Je réside dans le Var. Je suis ici parce que je dirige une association qui s'appelle Bioconsommateur Provence. Et en même temps, je suis conférencier. Et il se trouve que je suis très ami avec Eddy Aguirsif, qui est le co-organisateur de cette manifestation. Et moi, je trouve que ce type de manifestation, eh bien, a un caractère assez authentique. Et simple, mais direct, où on peut créer du lien facilement. Et je pense que c'est ce qui est le plus important actuellement dans la société, c'est de créer des lieux de rencontres, d'échanges qui permettent d'inventer et de développer des alternatives de société.
Alors, quelle société voulez-vous contrer, justement?
Alors, On va surtout parler de quelle société on propose. Hein. Celle qu'on veut contrer, c'est celle qui existe actuellement, qui est en train de faire la preuve qu'elle est le résultat d'une dévoyance effrénée depuis quelques décennies. Et on peut dire que on s'est trompé de direction, quoi. Parce que dans un monde qui est fini, aux ressources limitées, on ne peut pas toujours envisager de consommer en plus grand nombre et plus chacun. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout dans la façon dont on procède, qui est une très polluante, au point que ça met en cause la pérennité de la vie sur la planète. Donc, quelle société? Alors, l'alternative de société, elle est constituée de la démarche qu'on appelle agro-bio-socio-écologique. Ça s'articule sur une société rurale qui se préoccupe essentiellement des espaces agricoles, d'une agriculture respectueuse de l'environnement, qui produit des aliments de qualité pour nourrir sainement les hommes et les femmes et les enfants, ce qui n'est pas le cas actuellement avec l'agrochimie.
Et les animaux aussi, on peut parler.
Alors le vivant, tout ce qui est vivant, et en particulier aussi les animaux, parce qu'ils sont vraiment maltraités, quoi. Les élevages industriels sont une abomination. C'est franchement, c'est la honte de l'espèce humaine. On ne devrait jamais pouvoir procéder avec de tels comportements qui sont de l'ordre carcéral vraiment à la limite de l'inhumain, quoi, hein, pour certains cas. Moi, je fais référence à un film qui est passé dans le reportage, où on a été peut-être pour la première fois à voir de près ce qui se passe, car ce sont des images tournées en caméra discrète. Et c'est impossible de filmer d'habitude. Et là, on a vu vraiment qu'ils sont traités comme, même pas comme de la marchandise, quoi. Parce que la marchandise, on fait attention de ne pas l'abîmer, alors que, visiblement, personne ne s'en préoccupe, quoi. C'est de la chair à saucisse.
Depuis quand avez-vous été sensibilisé à cette démarche?
C'est une longue histoire maintenant. Hein. Ça a démarré en 1970. Là, j'ai rencontré, parce que la vie, elle est faite de rencontres. Et c'est souvent comme ça que le changement s'opère. Moi, j'ai rencontré un personnage hors du commun qui s'appelle Jean Pain, comme le pain. Et il élevait des chèvres dans la forêt. Et il m'a vraiment attiré l'attention sur ce qu'on appelle l'humus, c'est-à-dire sur la fertilité naturelle des sols. Et il pratiquait un jardinage, une agriculture qui repose sur le compost de matière lignocellulosique, ce qu'on appelle la broussaille communément. Il l'a transformé, il en faisait des tas et il en faisait un préhumus qu'il mettait au sol pour nourrir ses plantes, ses végétaux. Et ça fonctionnait très bien. Et ça m'a frappé. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé de faire du compostage de matière organique et puis d'approfondir la question. Et j'ai eu un domaine expérimental de 3 hectares dans lequel j'ai fait du vin rosé et du vin rouge pendant 25 ans. Et puis...
Du vin naturel, pardon ?
Bah oui.
Oui.
Du vin très naturel, même au point que les 10 dernières années, je ne traitais plus du tout les vignes. Même pas à la bouillie bordelaise, c'est-à-dire soufre-cuivre. J'ai tout éliminé. Et pourquoi j'ai pu le faire? Parce que la culture organique permet aux plantes de s'équilibrer, de se renforcer. Et elles résistent aux attaques parasitaires, ce qui fait que, du coup... Les traitements préventifs n'étaient pas nécessaires. Je constatais des attaques, mais qui ne dégénéraient pas. Donc on s'en est privé avec plaisir. Voilà, pour cette démarche-là.
Et vous êtes professeur?
Alors, moi je suis conférencier. Je suis entièrement autodidacte. On va dire authentiquement autodidacte. Et je me suis intéressé parce que j'ai eu une curiosité et je m'aperçois que dans la société actuelle, il faut aller chercher les informations qui ont du sens, qui ont de l'importance parce qu'elles ne circulent pas. Si je vous pose quelques questions, vous allez voir très vite que vous n'êtes pas dans le coup, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? On connaît son budget, mais est-ce qu'on connaît le budget de sa commune, de son département, de sa région? Est-ce qu'on connaît le budget de la nation? Comment se répartit-il? Qu'est-ce que coûte la sécurité sociale? Est-ce que le problème, c'est le déficit de la sécurité sociale? Ou est-ce que c'est le budget de la sécurité sociale? Vous voyez? Ça, c'est une question importante. Alors, le budget national... Quand je pose la question, en général, on n'est pas capable de me le quantifier. Un ordre d'idée. Alors, je ne vais pas vous la poser, la question.
Ouais, je ne sais pas, au hasard, je dirais autour de 400 milliards d'euros.
Eh bien, vous êtes pas mal. Entre 300 et 400. Voilà. Et effectivement, et le plus gros poste, vous savez ce que c'est? Un budget national?
Ce n'est pas l'éducation nationale.
Si, c'est l'éducation nationale. Bravo. Voilà. Parce qu'en disant que ça ne l'était pas, vous pensiez que ça l'était. Et ça l'est pour 44 milliards d'euros. C'est le plus gros poste. Et ça représente, vous savez, 11 000 étudiants, élèves et 1 million de fonctionnaires. Mais, par exemple, le fonctionnariat, vous savez quel pourcentage des fonctionnaires est affecté à alimentation, agriculture, forêt? 1,5%. 1,5%. Vous imaginez? Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre que ce n'est pas suffisant du tout, quoi. C'est là qu'il faudrait produire un effort pour transformer l'agriculture française, qui est la première agriculture en Europe. Et aussi premier consommateur de pesticides.
Et justement, alors, quels moyens vous avez justement pour, je me répète, pour vous montrer, vous faire connaître, comment opérez-vous justement?
Alors, actuellement, nous avons créé une association qui s'appelle Bio Consomme Acteurs Provence. Vous tapez, vous arriverez sur un site, vous verrez tout ce qu'on fait. On édite des documents, on fait des fiches, on expérimente du matériel, on incite à consommer autrement, on incite à jardiner, on incite à cuisiner, on a un rôle éducatif, on intervient en milieu scolaire, dans les écoles, mais dans les collèges, dans les lycées. Dans les universités aussi. Moi, j'étais encore récemment faire une conférence à l'université du Tampon à La Réunion. Il y avait 300 personnes. L'amphithéâtre était archi plein. Ce qui prouve qu'il y a quand même une préoccupation importante. On sent que la sensibilisation, la prise de conscience est en train de se faire parce que la société est gravement en difficulté, quoi, voire en perdition. Elle est prise en otage par l'agro-business, par l'agro-alimentaire, par l'industrie, par les multinationales, par la recherche effrénée de profit, quoi. On est dans une perte d'équilibre totale et tout est dévoyé, quoi. Ça veut dire que faire un profit raisonnable, équitable, pourquoi pas, ça paraît normal, ça permet de vivre. Mais en faire une recherche aussi effrénée, aussi absolue, non seulement ça n'a pas de sens, mais c'est même un contresens. Parce que ça finit par se retourner contre ceux qui le pratiquent. Parce que nous sommes sur la même planète. Et qu'à un moment donné, la déviance génère de telles pollutions qu'on ne pourra plus vivre. La maladie est là, elle frappe tout le monde. Et donc, entre autres...
Quelles maladies, par exemple?
Les maladies dégénératives, les maladies modernes. Hein. On va parler, par exemple, des cancers. Des maladies cardiovasculaires, surtout aussi des maladies neurodégénératives. Quand je vous dis que bientôt il y aura 1 million d'Alzheimer en France, vous imaginez ce que ça veut dire? Vous connaissez la maladie d'Alzheimer? C'est ingérable. Dans une famille, ça devient ingérable. Quand le père ne reconnaît plus ses enfants, quand il parle avec des étrangers, quand après il ne sait plus comment faire pour manger, quand il ne sait plus comment faire pour aller aux toilettes, on en arrive là, quoi. Dire quand il sort de chez lui qu'il ne peut plus retrouver son chemin, c'est quand même grave, quoi. Lui dire la vie, quelle valeur elle a à ce moment-là, quoi. Donc, on en est, nous, dans une campagne qui s'appelle Consommateur pas cobaye, voilà, qui est une grande campagne qui réunit déjà plus de 100 000 signataires et qui est destinée à obtenir un moratoire sur l'importation massive des OGM et des pesticides en France. Car ce que ne savent pas la plupart des consommateurs, c'est que, certes, on ne cultive pas les OGM en France pour l'instant, mais on les importe. Et on importe notamment du soja transgénique pour nourrir 80% du cheptel français. Donc ça veut dire que pratiquement tout le monde, à l'exception de ceux qui mangent bio, consomment des OGM sans le savoir, ce qui est parfaitement anormal, y compris nos enfants dans la restauration scolaire. Donc on agit pour ça, et vous voyez ici aujourd'hui, dans le Buech, on a fait signer entre 100 et 200 personnes qui sont venues et qui ont mis leur adresse et leurs coordonnées pour pouvoir permettre d'avancer, quoi. Et on espère atteindre 200 000 signataires et nous allons exiger un moratoire Ceci ça s'appuie sur les travaux d'un scientifique qui s'appelle Gilles-Éric Serralini, et qui est dans le cadre du CRIGEN, qui est le seul centre de recherche indépendant en France. Et là, on touche une problématique qui est quand même très importante, parce que actuellement, les tests qui sont faits, les tests toxicologiques, ils sont faits dans des conditions qui manquent de transparence,
qui manquent d'objectivité,
qui manquent d'indépendance. C'est financé par les industriels et de l'agroalimentaire. Et donc les scientifiques, ils sont en proie à des lobbying puissants. Et donc, ils mettent en cause la santé publique. Vous comprenez ? Donc c'est très grave et c'est très important. Voilà comment on opère. Et aussi, ben, comme vous le voyez aujourd'hui, on est présent avec des stands très conséquents où on amène de l'information, du matériel. Ici, vous voyez, vous avez un lombricomposteur. Vous avez des toilettes sèches. Vous avez un aérobèche, là, très important, qui permet de faire de la culture biologique qui demande de ne pas retourner le sol. Donc ce n'est pas une bêche, c'est une aérobêche. C'est-à-dire qu'on ne retourne pas, mais on ventile, on aère,
voilà,
on décompacte.
On brise un peu la terre.
Voilà, on brise. Oui. Et c'est très bien fait parce qu'il y a un appui, c'est comme un levier, et ça permet de s'enforcer sans se casser le dos, avec son poids, ça permet de soulever et de ventiler la terre.
Moi, j'ai un ami qui utilise ça dans le Diois, là. Oui.
Oui.
Justement, il fait de la permaculture.
Oui.
Voilà. Il y a justement qui se développe une technique de la permaculture dans le Diois depuis quelques années. Hein. Ça vient de plus en plus. Les gens s'y mettent de plus en plus à travailler la terre comme ça aussi.
Absolument, ben c'est ça. On incite tout le monde à jardiner. Quoi.
Et vous tournez comme ça dans des événements, des festivals pour alerter les consommateurs, les remettre aussi dans une bonne vision de la société dans laquelle
voilà.
Ils vivent aussi.
C'est ce qu'on développe, ce qu'on essaie de développer, c'est le discernement. Voilà. Ce mot, c'est un mot très important. Ça veut dire qu'il faut arriver à faire la part du vrai, du faux, retrouver du sens, remonter à la causalité, et puis se faire des repères, donner des repères autour de soi, notamment dans le rôle éducatif qu'on a tous. Nous sommes des porte-parole, nous sommes, on va dire, des messagers. On a des messages à faire passer les uns auprès des autres. Et voire, moi, je me vois même plus comme un missionnaire. Je considère que j'ai une mission. Et pourquoi ? Parce que j'ai reçu beaucoup dans la vie. On m'a apporté beaucoup et c'est un principe. Quand on reçoit, il faut restituer.
Et vous avez beaucoup d'espoir en votre foi ?
Oui, absolument. Parce que je trouve que cette foi-là, ça peut fonctionner. C'est une foi qui repose sur des lois de l'univers, de la nature, qu'on peut observer. Et justement, le travail, il est de savoir quel est le point de rencontre entre la nature d'un côté et le progrès de l'autre. On ne rejette pas le progrès. Regardez cette bêche, elle est le résultat d'un progrès. Mais ça reste un outil qui est gérable, non polluant, enfin minimum, et qui est très efficace en même temps, voyez, pour prendre un exemple. Donc c'est les lois de la nature. Et là, actuellement, la nature, comme le gendarme, vous savez, fait un rappel à la loi. La nature fait un rappel aux lois de la nature. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et vous savez, on est dans une société où on essaie de tout régir, sauf l'essentiel. On n'a pas compris qu'il fallait respecter certaines lois. Vous savez combien il y a de lois en France ?
Non, je
ne
sais pas.
Ah, là, vous ne savez pas ça.
Non.
Mais vous allez le savoir tout de suite. Il y a 150 000 lois.
Oui.
Et vous savez qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi ?
Oui, on me l'a déjà dit, ça.
Bon. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas les 150 000 lois, vous pourrez avoir des soucis à un moment ou un autre. Mais moi, je dis que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ni le plus grave.
C'est de garder un bon sens.
C'est de respecter les lois de la nature. Mmh. Voilà. C'est de garder du bon sens. C'est de regarder, d'avoir une éthique, une conscience. Et donc, ça relève de l'éducation. et des repères. Mais regardez dans la société actuelle, pourquoi on manque autant de repères? Parce que ceux qui ont le plus d'expérience, qui ont le plus de sagesse, selon vous, quelles sont ces personnes
qui ont le plus... qui ont le plus de sagesse?
Oui. Et d'expérience.
De la vie?
Et de vécu, oui. Ce sont les personnes...
âgées?
Eh bien voilà, les personnes âgées. Où sont les personnes âgées? Où sont-elles?
C'est vrai.
Voilà. Elles ne sont pas là où elles devraient être. Elles devraient être dans les familles. Elles ont un rôle essentiel à jouer, notamment avec les enfants et les petits-enfants, à qui elles perpétuent une tradition orale qui se perd. Et aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de repères. Les jeunes, les enfants, ils ne savent plus rien. Ils ne savent même pas s'alimenter. Ils ne savent pas comment poussent les plantes. Ils ne savent pas les nommer. Les animaux, ils les voient morts de sous cellophane. Et la viande, on en surconsomme. Pourquoi?
Pour le bénéfice de certains.
Oui, mais pas seulement. Pourquoi est-ce qu'on consomme autant de viande?
Parce qu'on a... Un conditionnement.
Bah, exactement. Ouais. On a banalisé. On dit c'est un aliment. Or, c'est un animal avant d'être un aliment. Et il y a un siècle, on mangeait 10 fois moins de viande. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans les années 1900? Ben, il fallait avoir des poulets, des moutons, il fallait tuer le poulet, le plumer, le vider.
Mais encore, le poulet, c'était du luxe, non?
Ben, c'était une fois par semaine. Hein,
oui, c'est ça.
Grosso modo. Hein.
Parce que maintenant, j'entendais souvent, c'était plutôt du lard, une fois par semaine, qui parfumait les soupes en plus avant de
oui.
manger.
Et puis,
à la limite, pour la fête des fins d'année, c'était loin qu'on avait engraissé
voilà.
pendant l'automne.
C'était occasionnel.
Voilà.
En dehors de ça, où est-ce qu'on trouvait les protéines?
Dans les légumes.
Alors, légumes, légumineuses. Hein, protéines végétales, légumineuses. Ensuite, dans les fromages, dans les œufs, un peu dans le poisson. Vous voyez ce qu'on est en train de dire là? Fruits, légumes. Un peu de poulet, un peu de poisson, des œufs, des fromages, une bonne huile d'olive.
Mais
c'est quoi? Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle l'alimentation méditerranéenne, traditionnelle. Voilà. C'est très important. On a une tradition. C'est culturel en même temps. Eh bien, c'est ça. On mangeait ça. Qu'est-ce qu'on mangeait, nous? Le blé, couscous, pois chiche... les légumes avec de l'huile, hein, et puis des fruits secs. Manger beaucoup de fruits secs, c'est excellent pour la santé. Noix, noisettes, amandes, raisins secs, abricots secs, voilà. Moi, je me nourris comme ça, monsieur. Vous vous rendez compte? Ça fait 40 ans que je n'ai pas pris un médicament. Même pas un cachet d'aspirine. De toute façon, j'ai jamais eu mal à la tête. Bref, pour vous dire, non pas que... je revendique d'être plus intelligent que les autres, mais
éclairé
simplement,
plutôt.
Peut-être, voilà, simplement c'est pour témoigner que je fais ça. C'est pour témoigner qu'une autre façon de vivre et consommer est possible et qu'il faut la partager, la faire partager à d'autres. C'est vraiment important, quoi.
Et alors,
donc, vous voyez, je vais vous montrer, parce que ça résume très bien notre démarche. Donc, nous avons, c'est aussi le thème d'une de mes conférences. En 1 heure et demie, je développe ce texte-là, vous voyez. Agir, parce que maintenant le discours, c'est bien, mais c'est pas suffisant, il faut agir. Ensemble, parce qu'agir individuellement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ensuite, pour une agriculture paysanne, à taille humaine, en ruralité, ça fait revivre les campagnes et ça recrée de l'emploi, très important. Pour une agriculture paysanne bio, parce que ça respecte l'eau, l'air, la terre, n'est-ce pas? Local, parce que c'est proche de soi et ça débouche sur l'autonomie alimentaire dont on a vraiment besoin. Parce que demain, aujourd'hui, comme ça, si on a un embargo énergétique ou une crise géopolitique grave, on ne mange plus. Hein.
Non.
C'est, ça va jusque-là. Donc ensuite, de diversité. faut pas faire de la monoculture intensive, hein. Ça n'a pas de sens. De saisonnalité, respectons les saisons. Ayons le plaisir de découvrir les fruits et légumes de chaque saison. Hein, alors que maintenant, on mange de tout le temps. Donc c'est dommage et ça coûte très cher parce que pour faire pousser tout le temps, c'est un profit énergétique qui est très élevé. Ensuite, éthique, équitable et solidaire. Hein. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Hein. Les prix sont déséquilibrés, ils ne sont pas équitables. Ça doit permettre aux producteurs comme aux consommateurs de pouvoir se nourrir sainement et à un prix correct. Hein. Les solidaires, comme les AMAP ou autres, où on est en prise directe avec notre producteur et que si un jour il est obligé de nous facturer un peu plus cher, eh ben on va faire l'effort avec lui. Hein. Et surtout partout, et pour tous, parce qu'on nous dit, oui, c'est bien l'agriculture bio, mais c'est pour quelques privilégiés, ça coûte très cher, c'est pas avec ça qu'on va nourrir le monde. Eh bien si, justement, le rapporteur spécial du droit à l'alimentation des Nations Unies, qui s'appelle Olivier de Schutter, il a fait un rapport qui dit que non seulement l'agriculture bio peut nourrir le monde, mais il dit que seule l'agroécologie pourra nourrir la planète demain. Voilà ce qu'il dit, après avoir étudié ça dans le monde entier.
Donc il va falloir convaincre beaucoup de dictatures.
Eh bien, il va falloir montrer l'exemple, déjà. Moi, je crois à la valeur exemplaire. Tout ce qu'on fait a valeur exemplaire. On ne peut pas dire une chose et en faire une autre. Et c'est ce qui se passe dans la société. C'est qu'on a des bonnes intentions parfois, mais elles ne sont pas suivies des faits. Parce qu'il y a des intérêts qui sont liés à ça, et il y a du lobbying. Et donc, c'est aux consommateurs de se organiser, de s'unir pour pouvoir peser dans le rapport de force qui est inévitable, et puis changer la donne. Remettre l'alimentation, remettre la santé, remettre le citoyen au centre du système. Tout le système doit fonctionner à son profit, à son bénéfice. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Voilà, c'est donc toute une histoire. Et pour finir, nous, on dit que il faut mettre en évidence la corrélation fondamentale et indissociable forêt, agriculture, alimentation, éducation et santé. Il devrait y avoir une action transversale au niveau gouvernemental qui relie tous ces ministères pour pouvoir avoir de la cohérence et dans l'action.
Et alors, pour agir justement comme dans ce sens-là, vous organisez des signatures de pétitions, par exemple.
Oui.
Auprès de quelles instances elles parviennent après auprès de quelles instances?
Alors, vous voyez, pour vous parler de consommateurs pas cobayes, là, où j'incite toutes les personnes qui écoutent, ils tapent Bioconsommateurs Provence, ils arrivent sur la page d'accueil, et ils vont voir une bannière, un encadré, où il y a marqué « Consommateur pas cobaye ». Je m'informe, je signe. Ils cliquent, ils arrivent sur la page spéciale. Ils peuvent signer, ils peuvent faire suivre, faire signer autour d'eux. Ils peuvent aussi télécharger la pétition dans cette page spéciale. Et puis, aller faire signer leur entourage, voilà. Et cette pétition, comme il est clairement indiqué, elle va être adressée au Premier ministre et au ministre des Affaires sociales et de la Santé, de l'écologie, du développement durable, de l'énergie, de l'enseignement supérieur, de la recherche.
Alors oui, l'enseignement supérieur, pourquoi uniquement l'enseignement supérieur? Vous parliez d'éducation. Est-ce que c'est pas aussi enseigner aux enfants justement la planète de demain et son idéal quelque part?
Oui, mais parce que c'est de l'enseignement, ça fait dans tout l'espace éducatif hein, qu'il faut intervenir. Après, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, et puis de l'économie sociale, solidaire et de la consommation. Voilà. Tous ces ministres, ils vont recevoir la pétition et on va avoir des actions médiatiques. Il y a beaucoup d'acteurs connus qui la soutiennent. Hein. Comme Pierre Rabhi, par exemple, je ne sais pas, vous connaissez peut-être.
Oui, il est passé dans le Divoire.
Voilà. Comme Gilles-Éric Séralini, bien sûr. comme François Veillerette, c'est Génération Future. C'est lui qui fait toutes les analyses de pesticides dans les produits et on le voit à la télé très souvent. Comme Christian Vélo, hein, qui parle des OGM en permanence, qui est un scientifique. Comme Marie-Monique Robin, qui a fait les moissons du futur, par exemple. Ou bien Le Monde, selon Monsanto, que tout le monde a vu pratiquement.
Je vois le DVD.
Marc Dufumier, qui est un agronome bien connu. Claude Aubert, Philippe Desbrosses. Donc il y a énormément de monde, d'ailleurs tous y sont cités, hein, sur la page spéciale. Donc voilà, on est en plein dans cette action là, on développe. Et on n'arrête pas d'être sollicité. Hein. On est invité à la foire de Marseille, on est invité au Zénith du Salon du Bien-être, on est invité dans beaucoup de manifestations organisées par la région, par les collectivités territoriales.
Vous avez une représentation au Salon de l'agriculture, par exemple.
Oui, on y était. On était dans l'espace on appelle ça l'agence bio. En France, il y a l'agence bio qui gère, qui avait un grand stand. Eh bien, on y va, on y est. On est dans d'autres salons, comme le salon Marjolaine, qui est le plus grand salon alternatif agroécologique, qui est organisé par Nature et Progrès. Nature et Progrès, c'est l'association pionnière qui a démarré dans les années 50. Et c'est très loin, mais c'est de là qu'est partie l'agriculture d'une façon organisée, en bio. Voilà. Eh bien,
merci ouais. En tout cas de toutes ces lumières.
Oui, ben, ça va être plaisir. Hein.
Ça va permettre aussi aux auditeurs d'aller se renseigner sur
qu'ils aillent
ce qui se fait.
Hein. Et qu'ils deviennent à leur tour des porte-parole. Très vigilants, très attentifs, très dynamiques, parce que le changement de la société repose sur l'engagement de chacun. Voilà. Merci.
Merci aussi à vous. Au revoir.